écoutez Radio J, il est 10h.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous demande de vous arrêter.
David Revaud-Allonne, ça reste entre nous.
Bonjour à toutes et à tous, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les malheurs de nos hommes et de nos femmes politiques. Le tout sans la moindre langue de bois, c'est rare, c'est tous les mercredis, 21h sur Radio J. Alors cette semaine, bien sûr, on s'intéresse à la situation extrêmement tendue en Nouvelle-Calédonie. Le président convoque un conseil de défense et de sécurité. Les émeutes continuent sur place, 2 morts sont à déplorer aujourd'hui. Enfin, on va s'intéresser au débat sur le débat dans le cadre des européennes. La confrontation Emmanuel Macron-Marine Le Pen aura-t-elle lieu? Et puis, dernière partie d'émission, on évoquera le MeToo cinéma, cette fameuse liste imaginaire qui a fait trembler la profession, une fake news relayée par les réseaux sociaux. Et au-delà, on va s'intéresser à la place de la rumeur en politique, une très vieille histoire, mais qui prend bien sûr beaucoup d'importance avec les réseaux sociaux. Coulisses, analyse et décryptage tout de suite avec nos invités. Alors, aujourd'hui, autour de la table, j'ai envie de dire, les meilleurs des meilleurs, l'élite, les Top Gun, et tout d'abord, Françoise De Goey, éditorialiste politique communicante. Bonsoir Françoise.
Salut, j'adore votre démagogie. Alors là, parce que toutes les semaines, vous dites ça à tout le monde.
Oui, mais aujourd'hui, contrairement aux semaines précédentes, c'est vrai. Annabelle Roger, journaliste politique, notamment à Radio Classique, mais qui a fait beaucoup de médias. Bonsoir Annabelle.
Oui, bien sûr, on la connaît bien Annabelle.
Et Philippe Moreau-Chevrolet, communicant, et qu'on ne présente plus, également éditorialiste politique. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous connaissez la règle du jeu, je ne vous la rappelle pas, mais je vais vous la rappeler quand même. Pas de langue de bois, pas de off. Soyez percutants, soyez précis. Tout ceci, bien sûr, reste entre nous.
Ça marche.
Malgré le couvre-feu mis en place à Nouméa, les violences ont continué. Cette nuit, elles ont même repris de plus belle. 2 morts sont à déplorer, 1 cette nuit, 1 ce matin. La réforme gouvernementale qu'on va étudier dans le détail, qui prévoit l'élargissement du corps électoral aux élections locales, a été adoptée cette nuit à l'Assemblée nationale. Le président, lui, convoque un conseil de défense et de sécurité, envoie des troupes. C'est grave, Françoise De Goey, la situation à moins d'un mois des élections européennes.
Oui, je pense que c'est dramatique. Vous savez, ce profil, nous étions jeunes quand même à l'époque, mais on a tous en mémoire évidemment les événements de 1984 avec le paroxysme de la grotte d'Ouvéa en 88.
Avec près d'une vingtaine d'indépendantistes tués et plusieurs gendarmes.
Donc c'est très douloureux. Avec cette puissance aussi de 2 personnalités, c'est-à-dire Jean-Marie Djibaou d'un côté et Jacques Lafleur de l'autre, qui avaient réussi à trouver un accord et construire un équilibre fragile. Et moi, je pense que je vois cet équilibre qui est en train d'être rompu. La Nouvelle-Calédonie, ça nous paraît très loin, nous, métropolitains, mais c'est le caillou, c'est un bijou, en réalité. C'est ce qui assure aussi notre influence dans cette région du monde. C'est ce qui assure aussi notre approvisionnement en nickel. C'est ce qui assure aussi, comment dirais-je, la puissance de la France, 2e puissance maritime, quasiment égalité avec les États-Unis. Donc, c'est très important. Et je suis un peu triste de la caricature de ce que j'entends. Si vous voulez, d'un côté, il y aurait les méchants indépendantistes et de l'autre, les gentils, comment dirais-je, blancs. C'est pas comme ça que ça se joue. Et je termine je suis tout à fait pour qu'on élargisse le corps électoral. Bien sûr qu'il faut élargir ce corps électoral. Mais c'est la façon dont on l'a fait qui ne convient pas. Vous savez, il y a eu un premier coup de canif dans la confiance avec le 3e référendum d'autodétermination. Il devait se dérouler en 2022. Les Kanaks et les indépendantistes ont demandé expressément à Emmanuel Macron de ne pas le faire en 2021 parce que, pour des raisons tribales, de tradition, les Kanaks étaient en plein deuil post-Covid. Évidemment, il n'y avait pas matière à faire campagne et ni à aller voter. Il n'en a pas tenu compte. Il n'a pas tenu compte de toutes les alertes et de toutes les obédiences politiques. Tous les députés qui ont été une fois ou deux fois parlementaires en Nouvelle-Calédonie depuis 1 an ou 2 ans savent que c'est explosif. pourquoi forcer la main? Pourquoi passer en force une loi, un projet de révision, alors qu'il aurait fallu laisser les gens diviser? Donc oui, je pense que c'est très grave, effectivement. Et la seule réponse ne peut pas, absolument pas être les escadrons militaires.
Oui, parce qu'on a dépêché sur place le gendarme et les policiers du raid. Alors, vous citiez les trois référendums. Il faut dire que ces trois référendums ont quand même donné à chaque fois le choix de maintenir le territoire dans la République française. Vous êtes d'accord avec Françoise, Annabelle? Est-ce que ce projet de loi vient au mauvais moment?
Je suis totalement d'accord avec Françoise et je partage sa tristesse. Oui, il y a eu trois référendums. Oui, ils ont donné le même résultat. Mais raison de plus pour écouter les autres, finalement. Ceux qui étaient là d'abord. Et puis, pardonnez-moi.
C'est-à-dire les Kanaks.
Bah, les tribus premières.
Ils sont minoritaires, entre guillemets, sur ces trois référendums. Mais ils sont là et c'est finalement eux l'âme. Donc, je suis désolée, on doit les respecter. Et je crois que c'est ça le cœur du problème, c'est qu'on ne les a pas écoutés, on ne les a pas respectés. Moi, ce qui me choque, c'est que aujourd'hui, le dossier soit entre les mains de Gérald Darmanin, du ministère de l'Intérieur, et pas dans les mains de Gabriel Attal, en tout cas de Matignon. Matignon, ouais. Hein, c'est pas rien. La preuve, trois anciens premiers ministres, pas copains. Édouard Philippe, le dernier, qui a eu en main ce dossier, Jean-Marc Ayrault, qui sait de quoi il parle, surtout avec ses fonctions actuelles, et Manuel Valls, qui disent, lorsqu'ils sont entendus, il faut que ça revienne dans les mains de Matignon. Et je pense que c'est ce premier geste-là, même si c'est un peu tard maintenant, en tout cas, ça doit revenir là.
Bon, en tout cas, visiblement, le dossier va échapper à Gérald Darmanin. Ça rappelle d'ailleurs un épisode, petite parenthèse, c'est celui du texte sur l'immigration, où pendant un an, il avait porté ce dossier, puis c'est finalement Elisabeth Borne qui l'avait récupéré. Mais là, c'est carrément Philippe Moreau-Chauvrelet, le président, qui reprend en main, puisqu'il lance un appel aux indépendantistes et aux loyalistes pour s'entendre, en expliquant que si jamais consensus il y a, il suspendra le texte de loi.
Et Emmanuel Macron, il est dans sa posture préférée, qui est d'être le sauveur des difficultés qu'il a créées lui-même.
C'est
une figure qu'il adore. Et du coup, il est dans sa partition. Je crois qu'il faut, si on prend un peu de recul sur ce qui est en train de se produire, c'est aussi une analyse que font les services, en l'occurrence du ministère de l'Intérieur et du Quai d'Orsay, c'est qu'il y a un certain nombre de gens en ce moment qui remettent en cause l'influence française, et c'est valable en Nouvelle-Calédonie, mais on l'observe aussi dans toutes les anciennes colonies africaines, avec des attaques qui sont poussées, on le sait, par la Russie, par la Chine, apparemment aussi en Nouvelle-Calédonie par l'Azerbaïdjan, à titre de représailles, c'est ce qu'indiquent les sources azerbaïdjanaises. Donc on est face à une remise en cause de l'influence de la France partout sur la planète, avec des attaques brutales, frontales, qui reviennent à faire de la déstabilisation. Et ça, c'est très difficile à manier, parce qu'en fait, on ne sait pas dans quelle mesure les mouvements qu'on voit s'ériger sont des mouvements autonomes ou inspirés par des adversaires géopolitiques. Ça rend la situation encore plus explosive. On n'est plus comme à l'époque où on avait quand même un dialogue républicain. Voilà. Là,
avec
on est face à des gens avec des personnalités
discuter,
fortes. Il n'y a plus personne pour discuter. C'est totalement juste, Françoise. Ouais. Et puis, il y a cette question de qui a-t-on vraiment en face de nous. Et ça, l'État a du mal à y répondre.
Alors justement, oui, Françoise, c'est-à-dire qu'on a des organisations indépendantistes, mais à qui la situation semble échapper un peu, sur le modèle de ce qui s'était passé pendant les Gilets jaunes, où les syndicats n'avaient plus prise, ou bien pendant les émeutes de banlieue. C'est-à-dire que ces jeunes qui sont en train de brûler, de piller, de tirer sur les forces de l'ordre, sont pas forcément, contrôlables et d'ailleurs contrôlés par les organisations.
Écoutez, raison de plus, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire notre ami Philippe, mais je et Annabelle, mais raison de plus pour ne pas donner, pour ne pas prêter le flanc. Comprenez bien que quand on est la France et qu'on voit tout à fait ce que disait Philippe Moreau-Chauvelet, il a tout à fait raison, qu'on voit les attaques et la remise en cause de notre influence, ce qui est d'une certaine manière le mouvement général de ce qu'on appelle le Sud global. Moi, je ne m'inscris pas en faux sur les aspirations du Sud global. Ce qui me gêne simplement, c'est qui mène ces aspirations-là.
Mais attendez, vous êtes en train de nous dire tous les deux que éventuellement la Russie serait derrière ces troubles.
Écoutez, on peut imaginez que la Russie est derrière beaucoup de manipulations, y compris en France, en territoire métropolitain. Pourquoi ne le serait-elle pas? Je ne dis pas forcément cela. Ce que je dis, c'est que raison de plus, même s'il y a une main invisible derrière, une forme de manipulation, d'ailleurs, ou une partie de manipulation, raison de plus pour être parfaitement démocrate et parfaitement, comment dirais-je, cadré et corseté et avec des principes. Vous comprenez que même plus globalement, je ne suis pas vous faire un discours décolonial, mais je n'en suis quand même pas loin. Il y a un moment où il va falloir que nous décidions de regarder nos outre-mer autrement. Vous comprenez bien, David, nous l'avons couvert ensemble. Souvenez-vous, 2009, Elie de Mota. La Guadeloupe, il faut que la Guadeloupe s'enflamme. Il faut que la Guadeloupe, pendant 3 semaines, soit barrée avec un leader, Élie Domota, pour que Yves Jégot, et puis après, d'un seul coup, on s'émeuve de la situation en Guadeloupe.
On se rappelle qu'on a des territoires et des départements d'outre-mer.
On a des territoires quand tout se met à flamber. Alors, on va m'expliquer, oui, mais nous déversons des subventions. Il faut arrêter avec ça. On est les ultramarins sont des Français à part entière, hein, et avec dans toute leur diversité, y compris les Kanaks et la Kanaki. Alors, je sais que ce mot est un peu tabou à utiliser, mais je le dis. Et le pouvoir central, la métropole, nous devons regarder nos ultramarins différemment. Il y a quand même, au fond, derrière, toujours un petit rien qui reste encore de colonialisme.
Alors, là-dessus,
alors,
justement.
Annabelle va pas être d'accord, mais.
Non, si, je suis complètement d'accord avec
d'ailleurs,
toi.
D'ailleurs, c'est l'argument Françoise. Qu'a utilisé, pardon, Annabelle, la gauche, hier, pour s'opposer à ce texte qui a été voté par la majorité, la droite et l'extrême droite. Toute la gauche a utilisé cet argument de recolonisation qui est celui d'ailleurs des indépendantistes canadiens.
Ouais, absolument. Ouais, c'est surtout le LFI parce LFI, que les socialistes étaient un peu plus
mais
soft.
Absolument. Et pardonnez-moi de revenir très terre à terre, mais ce que tu dis sur la manière dont on les traite quand il y a pas d'eau. Quand il y a des
merci
magasins,
le chlordécone, par exemple,
ils vont bientôt crever de faim. En Nouvelle-Calédonie, ils ont plus à manger.
Les stupéfiants, la délinquance,
voilà. La filière nickel qui s'effondre,
une situation économique lamentable. On peut pas continuer comme ça, effectivement. Et la première chose, c'est on envoie des forces de l'ordre. Pardon quoi.
Alors, comme Mayotte, comprenez. Non mais il faut continuer là-dessus parce que c'est quand même très important. Moi, je ne suis pas une décolonialiste radicale. Je ne suis pas bien si, tiens, allez, pourquoi pas, je vais devenir radical aussi, parce que il y a un moment donné, nous devons changer notre façon de regarder ce qui nous compose, ce qui compose notre République. Mais véritablement, est-ce que c'est normal, vous le savez tous, on a tous été aux Antilles faire des reportages, est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas réglé le problème du chlordécone encore? Dites-moi une seule fois si c'est normal qu'on laisse est-ce qu'il est normal qu'on n'ait pas réglé depuis 40 ans l'eau à Mayotte? Nous avons été à Mayotte ensemble.
Absolument.
Sur le bac, pendant une campagne présidentielle, comme journaliste, on sait très bien dans quelles conditions on laisse. Oui, mais donc nous devons changer notre façon, nous devons être respectueux de ces populations.
Sur cet argument, le côté néocolonial, je reviens un petit peu au texte qui prévoit d'ouvrir, je le rappelle, le vote aux prochaines élections provinciales à tous les citoyens résidant en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans. C'est-à-dire que ça ferait 25 000 électeurs de plus. Les loyalistes, évidemment, sont pour. Les indépendantistes exigent le retrait de ce texte puisqu'il parle d'une recolonisation. Qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger, je ne prends pas position, mais se demander si est-ce qu'il n'est pas normal que des gens qui vivent sur un territoire depuis 10 ans aient le droit de vote? C'est d'ailleurs le cas pour les ressortissants européens aux élections locales.
Mais le sujet est tout aussi explosif en métropole. Hein. Quand on cherche à agrandir le corps électoral, ça veut dire qu'on reconnaît comme pleinement citoyen, comme pleinement égal, finalement, des gens qui sont depuis moins longtemps que nous sur le territoire. Donc ça provoque d'énormes débats, ça en a toujours provoqué. Si vous vous souvenez de la situation en Algérie française, à l'époque, ça a été des clivages majeurs en Algérie française.
Vous avez raison.
Cette question de la citoyenneté, donc c'est explosif. Ce que moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi le gouvernement a jugé bon d'agiter ça maintenant. Effectivement, tout le monde lui disait que c'était pas une bonne idée, d'une façon aussi cavalière, avec cette méthode bonapartiste qui n'est pas du tout appropriée, donc qui paye aussi, et on paye collectivement, une hâte qui n'était pas justifiée. Mais c'est normal que ça provoque ces réactions. Le vote, c'est l'égalité des droits, et on ne reconnaît pas comme égal, forcément, quelqu'un qui vient de débarquer. C'est valable en Nouvelle-Calédonie comme ici.
Alors, Françoise, vous évoquiez le nickel. Il y a aussi une dimension très importante. C'est pas que de la politique, cette affaire. C'est aussi une dimension sociale. Il faut savoir que le nickel, je crois que ça emploie 70 000 personnes sur le territoire. C'est évidemment l'activité industrielle et économique.
C'est un enjeu stratégique quasiment.
Numéro un, c'est un enjeu stratégique. Et c'est bien sûr la crise du nickel qui explique aussi, comme d'ailleurs en Guadeloupe, vous citiez 2009 et la crise avec Élie Domota, c'est aussi la question sociale qui est au fondement de ces émeutes. Bien sûr, la fameuse vie chère.
Bah, la vie chère, 40% d'augmentation des coûts. Et Élie Domota, il ne faisait que révéler des vérités. On est sur des taux de chômage en Nouvelle-Calédonie des moins de 25 ans qui sont abyssaux. Enfin, je crois qu'on doit arriver. Nous avons été encore dans nos années précédentes en reportage. Combien de fois on s'est dit, quand on arrive au centre de Pointe-à-Pride, qu'on a l'impression parfois de se trouver à Haïti. On a l'impression de se trouver au centre-ville d'Haïti avec des jeunes en déshérence, complètement dopés, complètement cramés au crack.
Des armes à feu,
des gangs. On voit ça, c'est la France. C'est la France, monsieur. Non, mais vraiment, je plaisante absolument pas. C'est la France. Après, il y a la question du nickel, puis il y a la question de notre positionnement dans l'Indo-Pacifique. La réalité, elle est absolument là. C'est-à-dire que dans la France, seule puissance désormais nucléaire, je parle pas de nos amis grands-bretons qui sont sortis, mais bon, seule puissance nucléaire
De
l'Union européenne, deuxième puissance maritime du monde à quelques miles près, on est égal avec les États-Unis. Elle a cette puissance-là, si vous voulez, de représentation dans cette zone du Pacifique. On prend également Tahiti. Donc elle a, en tout cas avec la Nouvelle-Calédonie, dans ce bras de fer qui va se mener et qui va ne faire que s'amplifier entre la Chine et les États-Unis, évidemment qu'il y a un enjeu. Est-ce que quand on a un enjeu tel, la priorité, ça n'est pas de discuter, de dialoguer? Et je suis d'accord avec Philippe et avec Annabelle mais Annabelle a souri, donc c'est pour ça que je dis qu'elle était dans l'eau aussi, je la mets dedans. Voilà, Emmanuel Macron répare toujours les drames qu'il a lui-même créés. C'est un pompier pyromane. C'est un pyromane pompier. Il va falloir plutôt le dire dans ce sens-là. Et on est quand même, moi, vraiment, les bras m'en tombent. Objectivement, on fait absolument tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Vous rendez compte, hein, quand même, hein. Moi, je suis une électrice française. Je regarde l'info de loin, ok. Je me lève ce matin, d'accord. Deux agents de la pénitentiaire abattus comme des chiens par des complices d'un baron de la drogue, ok. D'abord, comment est-ce qu'ils ont pu avoir l'itinéraire? Je pose la question, il y aura forcément une réponse un jour. J'écoute la Nouvelle-Calédonie, Louis Lefranc, le haut-commissaire, qui annonce un mort, puis deux morts, des magasins pulvérisés. Je me dis, mais c'est quoi cet état impuissant? Impuissance, sécurité, préférence nationale égale Jordan Bardella. Voilà.
Alors justement, tout. Précisément, très bonne transition, puisque il y a quand même un souci depuis le début de la première présidence d'Emmanuel Macron, c'est le flanc régalien. On dit qu'il est faible, il est d'ailleurs très régulièrement attaqué par la droite et par l'extrême droite, et vous avez raison de rappeler ces incidents, ce drame d'ailleurs de l'évasion. On se rappelle qu'il y a quelques semaines, c'était Mayotte. Hier, le Sénat a rendu un rapport sur la question du trafic de stupéfiants qui est assez ahurissant et qui dit que l'État, en fait, en résumé, à gros traits, risque d'être gangréné par les mafias de la drogue. Est-ce que tout ceci, ça tombe pas très très mal pour l'exécutif à un mois des européennes qui, une fois de plus, démontre son impuissance en matière d'autorité et de sécurité?
Il n'y a pas qu'en régalien, en fait, qu'il a un problème. Macron, il est bon sur les coups et pour le reste, on laisse tomber. Je veux dire, même sur la culture, il sait pas faire. Donc, oui, et évidemment, je partage une fois de plus Françoise.
Tout le monde est d'accord aujourd'hui.
Oui, parce que quand on se lève le matin et que on a que des catastrophes. Ah si, bah ok, ouais, ça s'est bien passé hier, la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, magnifique. Mais voilà, c'est tout. C'est tout.
À la décharge d'Emmanuel Macron, c'est le seul à essayer de faire campagne sur l'Europe, avec peut-être Raphaël Glucksmann.
Oui, c'est
le seul à parler d'Europe.
Ah non, alors.
On a le RN qui fait une campagne.
Non, Bellamy aussi, François-Xavier Bellamy.
Oui, mais il retente un retour.
Je parlais des candidats qui existent, excusez-moi, mais on peut parler de Bellamy aussi.
Ce matin, le drame d'hier.
Oui, c'est sur le fond, oui, forcément. Ça reste LR, mais s'il y a pas, personne ne parle d'Europe en dehors d'Emmanuel Macron et Raphaël Glucksmann, en réalité.
Eh bien, l'Europe, on va en parler tout de suite. Merci pour ces explication fort instructive, les amis. On se quitte quelques instants et on va évoquer le débat sur le débat Macron-Le Pen. Aura-t-il lieu? À tout de suite.
Ça reste entre nous.
Radio J.
Bonjour.
Le 6-9, Hélène Ferradian.
Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J.
Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Uniquement sur Radio J.
Radio J.
Éric Ciotti, bienvenue.
Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
François Durigy, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Philippe Juvin, bonjour.
Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J.
Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Entre nous.
Radio J, ça reste entre nous. Françoise Degois, Annabelle Roger, Philippe Morochaud. Voilà, c'est une proposition qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est un délicat euphémisme. Plusieurs journaux, La Tribune dimanche et Le Parisien, pour ne pas les citer, ont évoqué dimanche la possibilité d'une explication télévisée Macron-Le Pen. Le scénario semble sérieusement envisagé à l'Élysée. J'ai envie de vous dire, Françoise de Goix, comme Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, c'est du sérieux.
Ça a l'air d'être du sérieux, surtout qu'on apprend par le canard enchaîné, c'est notre camarade Cyril Graziani qui aurait soufflé cette super idée à Emmanuel Macron lors des gens sur Cyril Graziani,
chef du service politique de France 2.
Voilà, lui aurait éventuellement soufflé cette idée, aurait émis, lui posé cette question.
C'est une idée de journaliste, il faut duel, il faut des poids lourds, il faut un affrontement, il faut une vraie idée de journaliste. Du sang et des larmes.
Après, on a vu que Marine Le Pen voulait pas. Finalement, elle se ravise en disant oui, pourquoi pas, à condition qu'on parle pas que d'Europe. Moi, je suis vraiment scandalisé, je vais vous le dire honnêtement.
Scandalisé.
Je n'en, même par Attal, le débat, pardonnez-moi, Gabriel Attal, Jordan Bardella, je veux pas être injurieuse avec eux. Je suis scandalisé. Objectivement, je n'en peux plus de cette mâchoire infernale, de ce duel, de ce duo de Dupont et Dupont de la politique française. Sérieusement, le RN et Macron. Macron, le RN, Macron. Tout ça, finalement, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Tout le monde, ces deux-là sont d'accord. Ces deux formations sont d'accord. Ça castre et ça stérilise complètement le débat politique. C'est tout à fait, comment dirais-je, injuste par rapport aux autres formations. Je parle pas simplement de Glucksmann, je parle aussi d'LFI, je parle des Verts.
Le problème principal de l'Élysée, c'est Glucksmann. La raison pour laquelle cette idée existe, c'est pour essayer d'éclipser Glucksmann de l'affiche.
Pour vous, c'est ça l'explication.
Oui, c'est ça l'explication. C'est que l'Élysée a peur qu'il y ait un croisement des courbes. Pour l'instant, les sondeurs n'y croient pas, mais les sondeurs ont du mal à voir ce type de croisement. La probabilité, peut-être qu'on aura un croisement
des courses, ça dépend des sondages.
Haye. C'est possible qu'il y ait un croisement des courses. C'est le scénario qui est redouté par l'Élysée. Pourquoi? Parce que ça atomise la campagne européenne d'Emmanuel Macron.
Ça atomise le même temps.
Ça détruit la Macronie. C'est l'acte de mort de la Macronie, si ça se produit. C'est que Glucksmann passe devant Valérie Haye. Donc, l'idée, c'est de sortir à la panne du chapeau. Un affrontement médiatique, on canalise les médias pendant des semaines, on ne parle que de l'affrontement Le Pen-Macron, et il n'y a plus personne d'autre qui existe.
Alors justement, plus personne d'autre n'existe, mais pas non plus Valérie Ayé, la tête de liste, Renaissance, déjà Premier ministre.
Il
a raison. Le Premier ministre Gabriel Attal va affronter Bardella Jordan de son prénom le 23 mai prochain. Si en plus le président s'en mêle, ça va devenir de plus en plus compliqué. D'ailleurs, Marine Le Pen, petit commentaire acerbe, je cite, je trouve le procédé très humiliant pour sa tête de liste et pour son Premier ministre, en qui il n'a visiblement pas confiance, c'est une preuve de fébrilité. Moi, j'ai une bonne tête de liste, je n'ai aucune raison de lui couper l'herbe sous le pied. Fin de citation, Annabelle
deux,
Roger.
Deux choses par rapport à ça. Tout à l'heure, Philippe disait, oui, mais Emmanuel Macron, lui, au moins, il fait campagne sur les européennes, il parle d'Europe. Ouais, et puis après, il fait un débat avec, il envisage un débat avec Marine Le Pen, donc on annule tout le...
Non, et si Marine Le Pen
on annule tout cet effet-là.
C'est justement son argument. Elle voulait parler de tout.
C'est ce qu'elle veut, elle, mais c'est pas ce qu'il veut, lui.
Deuxième chose, effectivement, Gabriel Attal et Emmanuel Macron, ce sont les Pères Noël du Rassemblement National. Voilà,
Les Pères Noël du Rassemblement National.
Pour moi, ce sont les Pères Noël du Rassemblement National et ce sont les Pères Fouetteurs de Valérie Haye. Moi, je suis une femme.
Ouais.
On parle beaucoup en ce moment de la place des femmes, de la manière dont elles sont traitées. Eh ben, quel sacré exemple, dis donc, ils donnent ces deux-là. De traiter leur tête de liste de cette manière, je trouve ça incroyable. Et c'est Marine Le Pen qui prend sa défense.
C'est du machisme électoral.
C'est un
bon concept, le machisme électoral.
En plus,
Marine Le Pen est une femme. Pour aller dans l'inverse de ce que vous dites.
La seule qui prend la défense de l'adversaire de Jordan Bardella.
Il n'y a rien de pire que les femmes qui prennent défense en permanence les hommes et contre les autres femmes. En tout cas, moi je suis d'accord avec ce que dit Philippe sur l'angoisse Glucksmann, je pense que c'est un mauvais calcul d'imaginer que les deux débats vont écraser. S'il y a un élan, il y a un élan. On est sur une dynamique un peu de Glucksmann, on est sur une stagnation de Valérie Ayé qui ne baisse pas, mais qui n'augmente pas. Donc vous savez tous, on a assez fait de politique ici pour savoir que dans une campagne, quand on stagne, c'est qu'on recule de toute façon. Donc je ne présage pas du croisement des courbes, c'est le fantasme habituel de tous les sondeurs.
C'est l'objectif de la campagne Glucksmann, en tout cas, c'est de passer devant Valérie Ayé.
Après, c'est celui, moi, il faut calmer un peu nos copains socialistes parce que c'est aussi un fantasme de sondeurs.
Oui, les socialistes sont déjà persuadés que Glucksmann arrivera en deuxième position et que c'est le début de l'endroit, c'est leur objectif pour 2027, je peux vous assurer que Olivier Faure
calme tout le monde et je pense qu'il a tout à fait raison
ce serait bien que Glucksmann passe devant Haye, ça nous ferait une alternative à Mélenchon à gauche.
Je suis d'accord,
parce que là, le paysage il est terrible quand même.
Je voudrais juste finir en disant que même si Glucksmann, Raphaël de son prénom, ne passe pas devant Valérie Haye, de toute façon s'il met 6 à 8 points dans les dents de Jean-Luc Mélenchon Mélenchon. De toute façon, c'est la recomposition à gauche. Je vous rappelle quand même que le Parti Socialiste revient de l'enfer. Moi, j'en suis assez heureuse. Il vient de 6%. Déjà en décembre, 10%, c'était un objectif inespéré hein, pour les socialistes. Si on est à 14 ou 15, excusez-moi, je pense que c'est quand même champagne.
C'est la reconquista socialiste voilà, qu'on n'avait pas vu.
La question étant, comme toujours, avec nous, je dis nous parce que je suis classé dans ce mouvement-là en rose vif, c'est le messie du PS,
au sens footballistique et politique.
En tout cas, je ne suis pas sûr si ça se jouera autour de lui pour la présidentielle, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faudra aussi que les socialistes, si tel est le cas, fassent attention à ce qu'ils vont faire de cette victoire. Vous savez, les Français ne supportent absolument plus l'hégémonie socialiste,
Ça fait longtemps qu'ils ont plus besoin de la supporter quand même. Elle est plus là depuis longtemps.
Tu sais, mon cher Philippe, que l'hégémonie revient beaucoup plus vite que tu ne le crois. Attention à la melonnade.
Le jour où on sera menacé par une hégémonie socialiste, je respirerai un peu. Parce que là, je ne sens pas ça pour 2027 encore. Je sens un autre type d'hégémonie. Je préférerais largement le PS.
Je ne parle pas de ça. Je parle de l'attitude.
Sur l'ensemble de la gauche.
Sur l'attitude. C'est-à-dire.
Oui, il ne faut pas qu'ils aient la grosse tête.
Pas retomber dans la maladie. L'arrogance traditionnelle socialiste qui nous a fait tellement de mal. De la même manière que les Verts ont pris un boulard, si tu veux, après leur 14% de 2019.
Ah oui, là, on en est loin.
Regarde ce qu'ils en ont fait. Bon, voilà.
Annabelle.
Bah, effectivement.
Le côté positif, et c'est ça qui est important, c'est que la gauche a retrouvé. La gauche centrale, on va dire,
la gauche,
exactement.
La gauche de gouvernement.
A retrouvé un électorat. Et finalement, c'est ça le point. Ouais. Et c'est ça, effectivement, l'importance de qu'est-ce qu'on va faire de ces 12, 14, peu
même,
importe.
Même 11, 12, c'est bien.
Et avec qui? Parce que j'ai un petit peu suivi la gauche de mon côté aussi. Et ça va. Moi, ce que je crains, en fait, c'est que ça redonne des ailes à des vieux responsables qui voudraient
repartir. Ils essayent avec Cazeneuve, avec Juliette Méadel, avec Laurent, à Bernard Cazeneuve et à ces gens-là.
Raphaël Glucksmann.
Ça va quand même être très humiliant pour eux.
Il faut renoncer aussi.
Mais vous voulez dire que Raphaël Glucksmann, clairement, c'est pas un candidat potentiel à 2027?
Ah, si, bien sûr que si. Il a l'envergure intellectuelle, il est en train de faire ses classes, bien sûr, il peut être un candidat pour 2027.
C'est pas un peu un intellectuel malgré ses grandes qualités, un intellectuel égaré en politique.
Il a un gros déficit de popularité, il y a 29% des électeurs qui ne le connaissent pas. Donc ça c'est un vrai gros handicap. Il a pour le compenser une facette people que n'ont pas d'autres candidats. Il est très intelligent, on lui reconnaît ça et surtout il est cohérent. C'est quelqu'un qui, depuis le début, n'a pas varié dans ses positions. Regardez ce qu'a dit Mélenchon sur à peu près tous les sujets. C'est du ski, comme on disait ça de Félix Faure, c'est un champion de slalom.
À droite, à gauche,
comme Macron. C'est pas le cas de Raphaël Glucksmann. Il a une vraie cohérence.
Candidat potentiel, François, vous qui connaissez bien la gauche?
Non, pas du tout. Je pense que Raphaël Glucksmann, d'abord, il n'en a pas l'appétence. Vous me direz, l'appétit vient en mangeant.
Oui, alors là, je vais terminer.
S'il sort à 14% ou 13% le 9 juin, il devient de fait le sauveur de la social-démocratie. Alors la pression sur lui va être énorme et même s'il n'en a pas envie, il y a un moment donné, il ne faut pas imaginer qu'il va prendre le train pour Strasbourg et disparaître, même si lui en a envie, parce qu'il faut dire que Raphaël Glucksmann, sa passion c'est l'Europe, sa conviction... Plus encore que pour Emmanuel Macron.
Il a dit qu'il voulait être un homme politique européen.
Voilà, donc lui, il veut être un homme politique européen. Donc la réalité, si vous voulez, c'est que de fait, il sera entraîné sur la pression. Moi, j'écoute entre les lignes. J'ai été très passionné, alors, bien sûr, du déplacement de Glucksmann hier à Amiens, mais la veille du discours de François Ruffin, qui, contrairement à LFI, était beaucoup plus rassembleur envers Raphaël Glucksmann, disant « C'est bien qu'il aille voir les salariés de Metex, vous savez, cette usine qui est menacée de fermeture, qui est la dernière en Europe à fabriquer de la lysine, qui est un acide aminé, donc il y a un vrai savoir-faire français. » Donc, j'entends ce que dit Ruffin. Je vois tout à fait, j'entends en écho ce que dit Olivier Faure, en disant « Bien sûr qu'après le 9 juin, on va recomposer, il a dit ça chez nos amis de Sud Radio, une gauche, mais sans Mélenchon. » Il le dit clairement, c'est la première fois que Olivier Faure dit cette vérité. Donc on a bien compris comment ça va se reconstruire, et de mon point de vue, il y a une telle avance dans... C'est assez passionnant de voir comment François Ruffin construit sa notoriété, sa popularité. Et mon sentiment, c'est que quand même, si les choses se font, elles se feront de toute façon entre ces deux hommes. Et ils l'ont bien compris, oui, puisqu'ils s'échangent des lettres à la façon de Madame de Sévigné.
C'est très très bien, ça, ce dialogue républicain. On n'est pas dans l'invective, on est dans l'échange d'arguments. On n'est pas face à Mélenchon, on n'est face à quelqu'un.
Chez les Insoumis, a été plutôt rare ces derniers temps.
C'est hors norme chez les Insoumis, malheureusement.
Que Ruffin est très intelligent. Non, parce que Garrido et Corbière ne font pas non plus dans l'outrance.
Oui, alors là, donc moi, j'attends qu'ils divorcent avec Mélenchon et là, on aura quelque chose de construit.
Je pensais qu'on parlait de ça.
Ça viendra de toute façon. Il y a un courant qui va se faire. Il faut attendre le 9 juin. Vous verrez la conclusion. Mais elle se fera autour de ces deux
personnes. Vous êtes d'accord, Annabelle, l'hypothèse de Françoise, Ruffin, Glucksmann, le nouvel axe?
Non seulement je suis d'accord, mais je suis très intéressée par ce ticket Ruffin, Glucksmann. Et effectivement, pour répondre à Philippe, si à mon avis il devait y en avoir un qui partait en 2027, en termes de costume, en termes de personnalité, en termes d'expérience, en termes de parce que Glucksmann il faut des troupes, hein, je suis désolée pour aller à la présidentielle, mais
après, voilà. Il aurait le PS, mais bon, ouais, il y a plus grand chose.
Ou pas.
Alors, je trouve
ce ticket extrêmement intéressant, le fait et l'échange qu'ils ont, que je trouve de qualité. Effectivement, ils sont pas dans l'invective, ils essaient de construire. Alors,
c'est assez pernicieux, hein, c'est quand même c'est fielleux, hein, entre les deux. Il faut pas dire que les lettres, c'est pas oui.
Madame de Sévigné, c'était déjà très fiévreux à l'époque.
Mais on débat et on se respecte.
C'est dans la bonne ligne.
Je trouve que
juste Glucksmann n'est pas tout seul. Il a la Fondation Jean Jaurès. Il a un think tank derrière qui le suit. Il a pris le PS. Il est arrivé à les calmer, à négocier avec eux.
On les connaît, nous.
Il a fait l'ordre. Olivier Faure est quand même pas Glucksmannophile.
Ruffin, que j'adore, vraiment, n'a vraiment personne derrière lui, il est tout seul.
Il est pigeonné
par son propre camp, donc c'est difficile.
Non. Alors je vais vous dire un truc. D'abord,
pigeonné
Ruffin,
par Mélenchon, en tout cas.
Pas du tout, pas pigeonné, mais non. Ruffin, il cherche à récupérer l'héritage.
Il y a des façons d'aimer qui sont des façons de haïr.
Oui, mais Ruffin cherche l'héritage du vieux, parce qu'il l'appelle comme ça de façon affectueuse.
C'est affectueux.
Il veut mettre la main sur le magot du vieux, c'est le viager.
Le magot, c'est les cités. En réalité, c'est le vote de la jeunesse, et le magot, c'est le vote des classes populaires.
C'est un magot qui Il faut démontrer que ce magot existe.
En tout cas, dans les faits, ce magot existe. Là, pas le vote des cités, mais en tout cas le vote des ouvriers, le vote de la jeunesse, il existe. Donc, il veut un héritage sans casser les œufs, sans avoir à tuer le père. Sur Raphaël Glucksmann, moi, je suis désolé. Le grand vainqueur, finalement, le 9 juin, ça sera lui, mais ça sera Olivier Faure. Je vous rappelle quand même que sur la liste,
Mais moi,
j'ai pas un problème. J'aime beaucoup Olivier Faure. Donc moi, je suis pas dans l'argument de l'FI.
Et pourtant, je reconnais que c'est pas lui le patron, c'est Glucksmann.
Mais c'est pas vrai. Vous vous trompez totalement. C'est-à-dire que la réalité, c'est que sur l'ensemble des listes, laissez-moi finir. Je parle d'un sujet que je connais éminemment et je pense mieux que vous. Donc je pense que sur l'ensemble des listes,
je me permets, Françoise, de ne pas être d'accord.
Sur l'ensemble de la liste,
on peut avoir un débat sur Olivier Faure, s'il vous plaît, David. Je pense que c'est ce que la population attend.
Sur l'ensemble de la liste, bien sûr, les places éligibles, il n'y a que 3 personnes de place publique. Je suis désolé de vous le dire.
Il fait de la politique, il négocie, Françoise. Il n'y a qu'au PS qu'on pense qu'on prend tout quand on gagne.
Après, la liste Olivier Faure a quand même été critiquée, y compris par son opposition interne, parce que trop fauriste. Hein, il a quand même placé beaucoup de ses amis.
C'est pas vrai, parce qu'il y a François Calfon, parce qu'il y a Jean-Marc Germain. Écoutez-moi, ces éducations, j'ai suivi de H à Z, donc je peux vous dire qu'à la fin des fins, peut-être que c'est Raphaël Glucksmann, mais il y a aussi une revitalisation du Parti Socialiste, que ça plaise ou pas aux adversaires d'Olivier Faure, ça sera le cas aussi.
Bon, les amis, on a fait un sort à la gauche, on a fait un sort à Macron, quelqu'un dont on n'a pas parlé, c'est bien sûr, celui qui est en tête avec plus de 30%, Jordan Bardella. Qu'est-ce qui marche chez Bardella? Vraie question, parce que tout de même, il dit pas grand-chose, hein, le président du RN dans cette campagne. Sorti sur le terrain, selfie, grand sourire, mais sur le fond, on l'entend pas, Annabelle. Qu'est-ce qui se passe?
Il est beau gosse, il fait des selfies, ça plaît aux
jeunes.
C'est un
peu court, jeune homme.
Il fait rien en Europe.
Bah oui, ça c'est, on le sait.
Et ben, il assume. Et donc tous les eurosceptiques, tous les gens qui disent bah l'Europe finalement ça sert à rien, ils se disent bah un mec qui fait rien, on va voter pour lui. Enfin
bon raisonnement.
il évite tous les sujets clivants.
Il évite tous les sujets.
Il est simplement aimable, ouais. C'est une machine médiatique inattaquable. En plateau, j'ai fait des plateaux avec lui, il est inattaquable, il est très très fort. Et puis il a un contact avec les gens qui est assez direct.
Et ça suffit pour être à 30%.
Non, ça suffit pour être populaire. Après, est-ce que ça fait des voix sur un scrutin de liste avec Marine Le Pen derrière? Peut-être. Ce qu'il a pas démontré, Jordan Bardella, c'est sa capacité à être élu. Lui, c'est un bon adjuvant de campagne. Il donne des couleurs à la campagne de la jeunesse, de la sympathie. Il est populaire, mais on l'a vu avec José Bové et beaucoup, beaucoup d'autres. La popularité dans son camp, ça ne fait pas forcément l'élection. Donc Bardella, c'est un beau produit médiatique. Ça n'est pas encore, et c'est valable pour Attal aussi, un produit politique. Il faut attendre de voir, et c'est les électeurs qui décideront si c'est du lard ou du cochon. Et pour Bardella, il y a autre chose qui est intéressant quand même, que moi je remarque, c'est qu'il est incapable d'avoir un débat de fond, un peu sérieux, un peu structuré, sans s'en prendre plein la figure. Il tient sur le ring, mais il n'est pas capable de battre une vraie pointure.
François Degois.
Je suis absolument pas d'accord. Justement, moi, je pense qu'il faut en terminer.
Une bardelliste.
Non, pas du tout. Je suis pas du tout une bardelliste. Et, n'importe quoi.
C'est une plaisanterie, François. Non. C'est bien de demander, on sait jamais.
Non, mais Philippe, n'importe quoi. Quelle angoisse. Non, vous pouvez pas, il n'y a pas de, on ne sait jamais.
Je crois qu'il n'y a pas de risque.
Il n'y a aucun risque. Comme, antisémite, antisioniste, il n'y en a aucun. Il y a au moins deux choses dont on est sûr avec moi. Mais, non. Moi, j'ai justement, je me suis moi-même, contredite et je me suis jugée assez sévèrement parce que j'ai très attentivement écouté Bardelliste. Là, lors du premier débat sur RTL des 7 têtes de liste, et ben justement, il faut en terminer et avec cette légende du type
qui tient pas la route.
Pas vrai. Il tient parfaitement la route. Ah, non, mais écoutez, moi, je suis plongé. Je suis plongé dans tous ces dossiers européens. Honnêtement, d'abord, il est hyper. Il a une mémoire hyper active. On voit bien qu'il a travaillé sur le CETA. Je suis désolé de vous le dire. Il a réussi à tenir la marée contre des vrais spécialistes, Valérie Ayé et Raphaël Glucksmann. Donc attention à cette idée que nous nous ferions de on va le défaire uniquement parce que c'est du vent. C'est de moins en moins du vent. Moi, ce que je vois dans toutes les ventilations de tous les sondages que j'ai sous les yeux, parce que c'est aussi un peu dans mon autre vie, mon travail d'utiliser ça, il n'y a plus de terrain incognita pour le Rassemblement National. Il n'y en a plus.
Plus de digues, plus de catégories sociologiques
dans toutes les catégories.
Y compris les salariés publics et les retraités.
Et les catégories pauvres et les catégories moyennes. Je regardais l'ensemble des ventilations sur notre ami du Rolling IFOP et sur un autre sondeur. Quand vous les croisez, c'est la même chose. Il performe, lui, à titre personnel, Jordan Bardella, c'est pas Marine Le Pen. Il performe sur les quantis, sur les qualis, par exemple, le concernant. Il performe véritablement. Il est en train d'ouvrir la porte aux catégories supérieures. Je vois des cadres sup qui votent Bardella. Vous vous rendez compte que sur les ventilations de vote aujourd'hui, il ne fait que grimper 32,5, 33. Puis il peut terminer à 34 comme Salvini en 2019. Hein. Il peut signer le score historique de l'extrême droite à une élection européenne sur l'ensemble de l'Union européenne.
Oui, ça il peut
bien,
le faire.
Eh bien, je regardais quand même que lui, à titre personnel, il arrive. Il y a 15% des électeurs de Macron du premier tour du premier tour de la présidentielle de 2022 qui vont voter Bardella.
Alors, justement, un RN à 30% voire plus. Vous citiez 32. Françoise, le chiffre de 32, 34 au matin du 10 juin prochain, qu'est-ce que ça change? Comment ça va influer sur la situation politique?
C'est une bonne question.
Vous avez 4 heures.
On va avoir. Non, mais on aura, j'imagine, une motion. Je sais pas s'il y a une motion de censure. Je pense que ça va d'abord se jouer à l'Assemblée nationale.
Ils vont demander, bien sûr, la démission.
Il l'a déjà fait.
Voilà. D'Attal,
ça va être la première chose parce que là, toutes les oppositions vont se retrouver, donc ça va secouer très très fort au niveau du Parlement.
Ça dépend de l'écart aussi, hein. Parce que si Macron arrive à prendre la barre symbolique des 20%.
Mais moi j'ai le sentiment que là, on est cristallisé quand même.
Je crois pas.
S'il y a 10 points d'écart entre les deux listes, pour Macron, c'est une énorme défaite.
Les derniers sondages, ça bouge plus beaucoup. Hein,
après, vous avez les symboliques. Alors, moi, je suis d'accord avec Philippe sur les 10 points d'écart. Mais par contre, vous avez les symboliques. Vous avez la barre du 20 et la barre du 30.
D'ailleurs, chez les macronistes, tu vois ce que je veux dire, plus que l'écart, ce qui importe, c'est la barre des 20. On estime que c'est la ligne de flottaison.
Si tu passes à la barre des 20 et que Bardella, par je ne sais quel accident...
La dernière fois, il fallait démontrer qu'on avait gagné, même si on avait perdu.
Laissez Annabelle terminer sur les erreurs. Je vous demande de vous arrêter.
Moi, je pars du principe où on est plus ou moins... Moi, je pense qu'on est plus ou moins cristallisé et que Valérie Ayer n'ira pas jusqu'à 20%. Donc, ça va secouer d'abord à l'Assemblée. Je pense que ça va secouer aussi à Matignon. Est-ce qu'il a les moyens de changer Gabriel Attal? Je ne crois pas.
Non, absolument
par qui
pas.
Il le changerait?
D'ailleurs, on commence déjà, Macronie a préparé le terrain en disant il n'y aura absolument pas de jour d'après, il ne se passera rien, on a Gabriel Attal qui reste, on a les JO, et business as usual.
Si les élections européennes sont perdues avec cette latitude, ce sera le coup d'envoi de la présidentielle dans le camp macroniste, et ça va flinguer à tout
bord. C'est le début de la course des petits chevaux.
C'est-à-dire que c'est des gros chevaux, de toute façon. Emmanuel Macron va partir. L'accélération de la perte du pouvoir d'Emmanuel Macron, elle va se signer le 10 juin. Donc, il fera de moins en moins peur à quelqu'un. Et vous allez avoir tous les flingues sortis.
Excusez-moi,
ça va être violent.
Ça va être les tontons flingues.
Où sont messieurs Édouard Philippe et monsieur François Bayrou?
Où est Édouard Philippe? Ils sont sur la liste.
Ils sont sur la liste.
Non, ils font quelques meetings.
J'ai fait un petit Google Actu là ce matin, vite fait, pour savoir ce qui devenait ces deux-là. La dernière actu de François Bayrou, elle date d'il y a un mois, les amis.
Il a piscine à la belle.
On connaît le courage des politiques. On voit bien comment François Hollande essaie de se rapprocher de
Philippe. Il y a un vrai, quand même, c'est étonnant. On connaît pas sa position sur Israël. On connaît pas sa position sur l'Europe en ce moment. On connaît pas sa position sur la Russie. On connaît sa position sur rien.
Et il prétend être président. On connaît sa position sur le gouvernement, dont il a expliqué dans une réunion à l'opinion qu'il ne réformait pas assez
la popole. Mais il n'a pas d'opinion sur les grands dossiers.
Est-ce qu'il a vraiment envie, Édouard Philippe? Est-ce qu'il a envie de se donner les moyens?
Eh bien, les amis, on parlera.
J'ai toujours pensé que c'était un très bon
On parlera des héritiers du macronisme. Merci pour ces explications. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet dans les prochaines semaines. On se quitte quelques instants. Les neveux flingueurs, on se retrouve très vite pour évoquer une question importante, celle de la rumeur et de ses ravages dans le cinéma, mais aussi en politique. À tout de suite.
Ça reste entre nous.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, Divertissement, Communauté.
Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Uniquement sur Radio J.
Radio J.
Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour.
Bonjour Serge.
Bonjour Manuel Valls.
Bonjour.
Gilles William Golnadel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, c'est Sophie Cluzel.
Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J.
Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
David Revaud-Dallone, ça reste entre nous.
Ça reste entre nous sur Radio J, Françoise Degois, Annabelle Roger, Philippe Moreau-Chauvrelet. Alors c'est une rumeur qui a fait elle aussi grand bruit et donné des sueurs froides au monde du cinéma à la veille du Festival de Cannes qui s'est ouvert hier. Celle d'une mystérieuse liste noire impliquant acteurs et producteurs en vue et d'une enquête fracassante du site Mediapart impliquant plusieurs grands noms du 7e art hexagonal accusés de violences sexuelles. Seulement voilà, tout était bidon. D'enquête, de liste, il n'y avait point. Pas de révélation tonitruante, à part un cas d'école parfait de désinformation, Philippe.
Oui, c'est de la désinformation. Alors, pour chez vous, comment on reconnaît de la désinformation et du complotisme? C'est un mélange d'éléments tout à fait vrais que vous connaissez, vous savez que c'est vrai. Et par exemple, il y a du MeToo dans le cinéma. On sait tous que c'est vrai.
D'ailleurs, le producteur Alain Sard a été mis en cause à la veille de l'ouverture.
Vous savez que c'est vrai. Vous savez qu'il y a des personnalités connues impliquées aussi. Ouais. Et puis là-dessus, on vous dit, il y a une liste incroyable cachée, dissimulée par Mediapart. Et du coup, ce mélange de faux, complètement faux, et de vrai, c'est ça le complotisme. Donc, si on vous dit un truc qui est vrai et qu'avec on vous mélange un truc incroyable, dites-vous que c'est peut-être du complotisme. Et là-dessus, on a un cas d'école. Il y a une liste soi-disant en préparation chez Mediapart. Ça passe par Zoé Sagan, qui est un publicitaire.
Alors avant, je crois que c'est le tweet d'un compte comploto-raciste, puis c'est relayé par Zoé Sagan.
C'est toujours plus ou moins comme ça que ça passe. Ça passe d'abord par un compte anonyme pas très connu, puis ensuite c'est repris par les gros comptes, par des bots, etc. Les bots,
c'est
un peu
vieux. Cyril Hanouna, quand même.
Le problème, c'est qu'après, c'est repris par plusieurs médias nationaux, Le Figaro et, bien sûr, touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, qui donne une résonance sur
cette affaire. Il vit sur le complotisme, Hanouna. Il est celui qui relaye le complotisme à l'antenne. Pourquoi? Parce que ça fait de l'audience. C'est un business, Zoé Sagan. Pour lui, c'est un business, la désinformation. Quand il vous vend ce truc, c'est pour que vous y croyez, pour faire de l'audience, générer du cash via X, via des plateformes comme ça. Un business.
Mais ça sert aussi son patron.
Et Mediapart a démenti. Du coup, que fait Zoé Sagan? Il attaque Mediapart en disant, de toute façon, ils sont moribonds, ils vont crever, c'est leur chant du cygne, et voilà, ça prouve bien que Mediapart.
Mais il y a pas totalement démenti.
Planel, Maillard-Car, Marine Truchy, qui est vraiment excellente sur ces questions-là, Edoui Plenel personnellement, et puis je rappelle à tous les gens qui pourraient le croire que Mediapart n'est pas du tout moribond, c'est un des seuls modèles économiques qui fonctionne du feu de Dieu avec une excellente équipe, on est d'accord ou pas, mais en tout cas, en termes d'investigation, ils sont quand même remarquables. Moi, je suis d'accord avec Philippe, c'est intéressant ce qu'il dit sur ce mélange du vrai faux qui est revendiqué par Zoé Sagan. Zoé Sagan, elle revendique, moi je ne suis pas sûr que ça soit ce publicitaire encore qui soit derrière Zoé Sagan. On me dit qu'il y a, c'est plutôt une communauté de gens, il y a plusieurs personnes, mais en tout cas
on ne sait pas qui est cette Zoé Sagan.
On pense que c'est un publicitaire,
oui,
c'est
comme,
ancien publicitaire, voilà, mais en proche tout cas, de l'extrême droite.
Ce qui est certain, c'est que c'est vraiment d'une violence extrême, et moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, je n'en sais rien, mais je me dis quand même, quand je vois le chemin, ça passe par ce compte-là, projet extrême droite. C'est relayé par la sphère Bolloré quand même, qui fait aussi son beurre là-dessus. Je me dis quand même, est-ce qu'on n'est pas encore dans une logique, on va dire, ah, encore les Russes, etc. Je vois bien tout le monde moquant cela, mais est-ce qu'on n'est pas dans une logique, la logique choisie aussi, utilisée par les guerres hybrides, par en tout cas nos ennemis sur le plan géopolitique, parce que la Russie est un ennemi, enfin en tout cas le régime de Vladimir Poutine est un ennemi désormais, pour appuyer sur les fractures, sur tout ce qui fait mal. Je vais vous raconter une histoire. Mon compte, j'ai 98 000 abonnés. J'ai fait un tweet très dur au moment, vers la fin des retraites, vraiment très dur sur le gouvernement, etc. En une nuit, je vous jure que c'est vrai, mon compte est passé de 95 000 à l'époque à 130 000 abonnés. Et le tweet que j'ai fait a été vu 6 millions de fois. Incroyable. Je n'en revenais pas. Je dis, mais c'est quoi ce délire? C'est inimaginable. Et qu'est-ce qui s'était passé? Vous aviez eu des bots qui s'étaient abonnés massivement à mon compte pour donner un écho à mon tweet qui était dur sur Macron, encore plus fort, évidemment, pour participer de la fracturation de la société française. Et évidemment, au bout de 15 jours, tout a reflué. Je suis revenu à 97 000 et ce tweet-là, 6 millions de vues. Imaginez.
Incroyable.
Donc, et ben ça fait partie des guerres hybrides. Alors, on voit ce que je veux dire ou pas.
La bolosphère. Mais il y a aussi, des journaux sérieux, Le Figaro, Le Progrès, L'Opinion, qui se sont emparés de l'affaire. L'Opinion l'a même politisée en faisant un papier aux accents un peu anti-wokistes. Il faudra attendre un papier du Parisien pour que ce soit une fake news. Qu'est-ce que ça vous inspire, Annabelle?
Moi, ça m'inspire. On a regardé d'où ça venait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi à qui sont les cibles, les targets.
À qui ça s'adresse?
Alors, qui sont les targets?
Ah,
qui sont les targets?
Alors,
les femmes victimes de MeToo qui essaient justement de faire avancer leur cause. Mediapart, la gauchesse. Pardon?
Oui, non, mais c'est intéressant, c'est bien que tu le dises directement.
Oui,
comme ça,
absolument.
Oui. L'extrême gauchisme.
Voilà. Donc, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'aller jusqu'en Russie. Moi, je pense qu'on regarde juste dans ce qui se passe dans l'extrême droite française, le wokisme. Ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est effectivement la sphère Bolloré et tous ces gens qui finalement veulent cette vieille France un peu rance qu'on trouve aujourd'hui.
Alors sur les cibles que vous évoquez, dans cette liste, il y avait un jeune acteur qui s'appelle Raphaël Quenard, dont le nom était évoqué. Et il a été interrogé hier sur Click TV à ce sujet. On l'écoute.
Le harcèlement, les toutes formes de violence, c'est des choses qui sont des sujets sérieux, qui doivent être traités avec la plus grande rigueur, rigueur dont ne font pas preuve des tweetos, d'accord? Et ne serait-ce que s'informer sur Twitter, pour moi, c'est déjà exprimer le désir inconscient de faire de son cerveau une marmite de merde. Ok? C'est pas, genre, le bon endroit. Et d'ailleurs, cette rumeur n'a été reprise par aucun journal digne de ce nom, avec des journalistes, parce qu'il faut pas tout mettre dans le même sac, qui sont sérieux, minutieux, qui sont animés par une déontologie, un sens de l'éthique, et qui présentent, par respect pour leur auditoire et leur audience, des faits avérés et vérifiés. D'accord? C'est le travail d'investigation, il doit être fait avec sérieux. Et combattre le harcèlement, c'est courageux, c'est nécessaire. Mais ça ne doit pas avoir pour effet d'en initier d'autres, des harcèlements. Parce que les gens qui sont l'objet de la rumeur, au final, ils sont victimes d'une forme de harcèlement.
Françoise Degois, vous êtes d'accord ?
Oui, oui, moi j'entends tout ce que dit Raphaël Quenard, il a tout à fait raison de le dire et de le préciser. Après, je pense que Twitter, ça sert aussi de fil d'information parce que tous les grands journaux du monde sont sur Twitter. C'est et vrai. Que moi, je m'en sers comme une agence. Hein.
Twitter, un peu l'AFP moderne.
Pour moi, c'est l'AFP vraiment Twitter. Après, on n'est pas obligé d'aller regarder les comptes complotistes. Après, moi, j'entends bien les récriminations de Raphaël Quenard, mais je voudrais pas entendre dans la fin de sa phrase l'idée que d'un seul coup, il y aurait des hommes qui seraient atroces. Parce que ça, la suite, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer d'un harcèlement à l'autre. Il ne l'a pas dit. Mais en tout cas, l'autre versant aujourd'hui, parce que le combat fait rage entre les MeToo et les anti-MeToo, en gros, c'est ça. Hein, avec, eh bien, l'autre versant, c'est de dire que, en gros, les hommes sont toujours les victimes et les femmes sont les menteuses. Vous voyez, on a cette bipolarisation. En plus, la rumeur, elle génère. C'est pour ça que je dis que, à mon avis, il y a une manip aussi derrière qui va peut-être au-delà de la sphère de la fachosphère et de la réaxphère des néoconservateurs, c'est que elle réalimente cette bataille rangée. Tout est bataille rangée maintenant entre les MeToo et les pas MeToo. Soit vous êtes, moi je vois pas des antisémites partout, mais je vois pas des wokistes, pas des anti-wok partout non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? À un moment donné, impossible de trouver un chemin de milieu.
Alors la rumeur, c'est quand même un classique. Hein, sans remonter au Moyen-Âge, bien sûr, sur rumeurs meurtrières, la Révolution française pendant lesquelles elle pullulait, on a eu dans les dernières décennies beaucoup de rumeurs politiques. La rumeur d'Orléans, souvenez-vous, les assez relents antisémites, l'affaire Markovitch, l'affaire Patrice Allègre, et bien d'autres encore. Ce qui est nouveau, c'est ce système de transmission qu'on évoquait, réseaux sociaux, puis repris par les médias nationaux et sérieux, et donc à l'arrivée, objet du débat, sur la table du débat politique. Philippe Moreau.
Oui, parce que la rumeur est relayée par des comptes qui font de l'audience et du business avec. Du coup, ça devient des phénomènes. Pourquoi ? Parce que ça agrège des millions de vues. Du coup, les médias traditionnels sont obligés de s'en emparer parce que ça existe. Et c'est ça, c'est là où je rejoins l'argumentation de Raphaël Quenard. Il y a peut-être une réflexion à faire sur ces plateformes pour les réglementer, peut-être pour en interdire certaines. Raphaël Glucksmann a arrêté d'utiliser TikTok. Je trouve que c'est légitime et
c'est
bien.
Ça, bien c'est sûr, ça.
Ce qui n'est pas le cas de Jordan Bardella.
Ce qui n'est pas le cas de Jordan Bardella, oui. C'est,
qui voilà. Était d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais aussi un des fondements de son succès.
Il est surnommé Jordan TikTok. Alors, c'est pas une très bonne attaque de la part de l'extrême gauche parce que ça renforce l'idée que Jordan Bardella est connecté et jeune. Donc, je pense pas que ce soit très efficace comme attaque, mais il est surnommé comme ça. Il y a une réflexion à faire sur ces plateformes. Est-ce que ces plateformes, pour notre vie démocratique, elles sont bien. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est nécessaire? Ou est-ce qu'il faudrait, comme le pense Thierry Breton, je le pense aussi, les réglementer, devenir adultes, considérer qu'elles font peut-être plus de mal que de bien, en interdire certaines, imposer des règles de débat à d'autres et ne pas subir comme on le subit, sans arrêt, un déluge. Je ne reprendrai pas l'expression de Raphaël Cohn.
De merde,
oui.
Bien sûr.
Il faut quand même qu'on se protège en tant que démocratie. Où sont les anticorps? Il faut pas qu'on soit.
Je trouve ça intéressant
pour nos institutions et notre vie démocratique, pour nos élections.
Eh bien non, parce que moi je pense quand même que honnêtement, nos anticorps c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que il y a.
Vous êtes optimiste.
Oui, je suis très optimiste.
Sur la
tension. Vers le complotisme.
Moi je suis très optimiste. Moi je suis très optimiste par rapport à ça, parce que je pense que bien sûr il y a des sauts de merde. Et moi je suis moi-même victime de shitstorm depuis le 7 octobre. J'en ramasse, j'en prends plein, mais je regarde même pas, j'en ai rien à péter, en fait ça m'intéresse pas. Je pense que il y a quand même une maturité aussi. Non mais je m'en tape, mais alors du tiers comme du quart, hein, vous pouvez m'insulter. Moi je suis l'objet de campagne de troll. Ça monte à des millions. Je suis à 800 000 tweets d'insultes. Même Pharos m'a appelé pour me dire oh là là, c'est grave.
Est-ce qu'ils te remettent une médaille dans ces cas?
Non, je m'en tape complètement, ça m'intéresse pas, j'ai pas peur de ça. Je pense quand même que regardez la puissance des réseaux sociaux. Serions-nous en train de parler de la révolution iranienne et de la révolte des Iraniens sans les réseaux sociaux? Nous ne serons pas. Il n'y a que ça aussi pour exister. Donc, je crois quand même qu'il y a une capacité. Nous avons une capacité collective. Lorsque nous apprendrons à mieux les manier, ce que je veux dire, mais il faut mettre évidemment des warnings. J'ai vu par exemple que Zoé Sagan se compte parce que, par exemple, X a enlevé la souscription. C'est-à-dire que Zoé Sagan aujourd'hui ne peut plus souscrire, on ne peut plus faire d'argent. Ah, ça c'est une régulation.
Je commence à l'embête, il fait
est-ce
ça pour ça.
C'est une régulation quand même.
Annabelle, vous partagez l'optimisme de François? Une fake news, une rumeur habilement relayée, on l'a vu à l'instant, mais politique pourrait basculer une campagne électorale, voire fausser une élection.
Je ne sais pas si on en est encore là, mais je suis pas suis pas rassurée. Et là, je partage plutôt le point de vue de Philippe. Ouais. Je pense notamment à Twitter. Et bah, c'est bêtement Elon Musk qui a une part de responsabilité quand on voit que les modérateurs ont disparu de ces réseaux sociaux.
C'est l'antisémitisme sur un tube toute la journée, quand même.
Bah, absolument. Et Françoise, tu dis, on a cette intelligence collective.
Moi, je suis
prof. Je donne des cours de journalisme. Quand je vois le niveau, mais y compris de nos futurs collègues, quand j'entends, c'était pas une étudiante en journalisme, mais qui dit moi que ce soit vrai ou que ce soit faux, je m'en fous. Pardon.
Ah oui, ça c'est quoi, c'est
donc ils sont pas tous comme ça. Mais je pense qu'on a un vrai sujet d'éducation. On a un vrai sujet effectivement de mettre des barrières sur les réseaux sociaux. Comment on s'y prend, je n'en sais rien. Donc oui, la révolution iranienne. Mais quand on voit ce que donne le complotisme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, moi,
peut-être,
ça me pose
mais il y a des très
question.
Belles choses aussi qui naissent sur les réseaux sociaux. Il y a de très grands soutiens qui naissent sur les réseaux sociaux. MeToo est né sur les réseaux sociaux.
C'est comment on garde le meilleur et comment on évite le pire.
Je suis d'accord avec toi, mais les choses ne peuvent pas être chimiquement pures, c'est ce que je veux dire.
Il y avait quand même 10 ans, les amis, qu'on se pose la question.
Mais d'accord,
de TikTok, on est en train de confier les données privées de nos enfants et leur cerveau à la dictature chinoise. Je ne suis pas confort avec ça, je pense qu'il faudrait l'interdire.
Non, mais attendre TikTok, j'en sais pas. En tout cas, le réguler, en tout cas, travailler sur les algorithmes.
Il y a des fois, il faut être régalien.
Eh bien, merci les amis sur ce débat qui rebondira.
C'est pas régalien, c'est la dictature pure.
Merci à tous les trois pour vos explications lumineuses, vos éclairages. Nous savons tout de la campagne européenne, du débat Macron-Le Pen, de la Nouvelle-Calédonie, des ravages de la rumeur. Bonne soirée. Et le débat continue, je vois.
On continue, on va finir après au café.
Moi, je crois à la force
de la démocratie. Je pense qu'elle est plus forte que toutes ces conneries.
Et bien, on en reparlera dès la semaine prochaine, mercredi prochain, 21h. D'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion, surtout vous, Françoise. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste. Entre nous, excellente soirée et à très bientôt. Bye bye.
À bientôt.
Radio J.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous demande de vous arrêter.
David Revaud-Dallone, ça reste entre nous.